Ce que j'aime beaucoup chez nous, c'est cette démarche d'être tout le temps en mouvement, de mettre toute l'équipe au profit des engagements. Et donc, on s'engage sur toutes les facettes. En fait, on essaie de voir tout ce qu'on a dans les mains. Notre baseline, c'est le bien par le bon. Et on est convaincu qu'on peut mettre ce qu'on a dans les mains au profit du bien.
Bonjour, je suis Thibault Lamarque, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je reçois Thomas Lemal, 33 ans et cofondateur de OE. OE, vous en avez sans doute entendu parler, c'est une marque de vin engagée créée en 2015. De la culture de la vigne au bouchon en liège, tout a été pensé pour s'inscrire dans une économie propre et circulaire. Quel est le parcours de Thomas? Comment est né OE? Quels sont leurs engagements? On en parle tout de suite au micro de La Relève. Salut Thomas.
Bonjour Thibault.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, content d'être à Paris et content de te voir.
Sous un ciel bleu.
Exactement.
Et c'est pas désagréable.
Non.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton enfance, d'où tu viens?
Je sais que tu commences par cette question que j'aime bien. Je viens de Normandie, je viens d'une famille de trois enfants. Ma mère est polonaise et donc j'ai toute une partie de ma famille qui est en Pologne et en Lituanie. J'ai un grand-père qui était architecte en Pologne, qui était entrepreneur. C'est peut-être lui qui m'a donné cette fibre entrepreneuriale parce que mes parents étaient professeurs tous les deux de SVT et de français.
C'est ton grand-père qui est venu en France
ou c'est, non, ou c'est ma mère qui est venue en France.
Ta mère,
okay. Je passais beaucoup de temps avec mon grand-père à Varsovie. Et avec lui, c'est lui qui m'a appris à dessiner, c'est lui qui m'a appris à regarder les choses, à toucher les choses, à se rendre compte des formes. Je lui dois beaucoup.
Tu viens d'où en Normandie?
Je viens du Havre.
Ouais.
Ouais. Et ma femme vient de Rouen. Donc on connaît bien la Normandie.
Ok. Et maintenant, tu es expatrié à Lyon.
Et maintenant, je suis à Lyon.
Loin de la mer.
Ouais. En fait, pour mon. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai fait ma prépa au Havre, je suis parti à Lille, aux arts et métiers, école d'ingé. Et après, j'ai bossé 6 ans à Paris, chez L'Oréal.
Ouais. Qu'est-ce que tu faisais?
J'étais à la coordination des lancements chez Lancôme International. Et ensuite, je suis passé 3 ans chez Yves Saint Laurent France pour, pareil, coordonner les lancements, faire les prévisions de vente, orchestrer un peu les choses. Et après, je suis parti chez Danone pendant 1 an à Lyon. Et puis, chez Danone, j'ai suivi un MOOC avec Ticket for Change pour devenir entrepreneur du changement. Et on en reparlera, mais je crois vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. Et puis, j'ai suivi aussi la formation Coup d'État avec The Family. Et à ce moment-là, j'ai rencontré FX, mon associé, qui lui travaillait dans le vin. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça.
En 2015, tu quittes le monde corporate des grands groupes pour monter OE. Comment c'est parti?
En fait, après le MOOC avec Ticket for Change, je voulais vraiment créer un business qui ait l'impact, qui ait du sens, qui soit vraiment cohérent. De manière générale, dès qu'il me manque quelque chose, j'essaie de le créer. Et c'est vrai que je suis souvent attaché à cette grande cohérence, vraiment dans les détails. Et vraiment par hasard, j'ai rencontré FX, François-Xavier, qui lui travaillait dans le vin, qui a 15 ans de plus que moi, qui voulait monter un projet dans le vin. Et assez rapidement, on a vu qu'on était très complémentaires, lui et moi. Et voilà, on a commencé en vendant des vins bio de petits vignerons. Puis petit à petit, tout s'est enclenché et on a avancé dans nos engagements et dans le commerce et tout a pris.
C'est pas un univers facile le vin parce que... Finalement, c'est un univers de vigneron.
Ouais, c'est pas un univers facile. Et en même temps, c'est un univers où il y a beaucoup de pain. Ce fameux rayon vin dans un supermarché ou dans une épicerie, il est toujours compliqué à appréhender. Il est toujours énorme ou trop grand. À la fois, il y a une offre qui est assez pointue. Et en même temps, les gens, très majoritairement, se présentent comme néophytes du vin. Et donc, il y a quand même quelque chose à apporter de simple, de cohérent. Et puis, c'est un univers où... on entend, enfin, il y a tout et son contraire, quoi. À la fois, il y a des vignerons vraiment qui font un travail absolument merveilleux, fabuleux à la vigne, qui commercialisent ça à leur manière. Et à la fois, il y a une sorte de grand gloubi-boulga, de négoce un peu compliqué. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on ne sait pas trop qui est derrière, etc. Et donc, apporter de la transparence et de la simplicité, je pense que ça répond à un besoin. En tout cas, nous, on le voit.
C'est quoi votre marché et c'est quoi la promesse des OE?
Alors, OE, c'est pour œnologie. Et OE, parce que OE, on veut bousculer les lignes. La promesse, c'est... d'offrir un vin très engagé, avec une grande transparence, une grande simplicité, une gamme très simple aussi, très accessible. Tous les vins OE sont bio, vegan, zéro pesticide. Tous sont produits par des petits vignerons et vigneronnes de toute la France. Et puis au-delà du vin qu'on va consommer, eh bien, on a apporté un grand travail à tout l'aspect packaging, où c'est là où il y a tout l'aspect CO2. Et donc, on est la première marque de vin en France à relancer la consigne, ce qui est game changer en termes d'écologie. Et puis, évidemment, tout est recyclé, recyclable, naturel, encre naturelle, bouchon naturel, etc. Et puis après, au-delà du contenu et du contenant, on veut être cohérent aussi dans la manière de construire l'entreprise, où on est transparent sur les salaires, on a l'énergie renouvelable, on vient de lancer notre bilan carbone, on vient d'embaucher une première personne avec un handicap. Voilà, on est tout le temps en mouvement, tout le temps en train de progresser, tout le temps en train de se poser les questions pour faire mieux, faire différemment.
On va en reparler de tout ça, mais sur le vin, moi je suis amateur, j'achète un vigneron. Est-ce que toi, si finalement tu viens dépoussiérer et renouveler le Nicolas ?
Alors de fait, on est chez Nicolas, mais ce qu'on fait, c'est peut-être apporter une vraie grande simplicité avec à la fois une offre très claire, très simple, peu de vin, les appellations très classiques de France, Bordeaux, Languedoc, Côte-du-Rhône, etc. Et puis derrière chaque vin, un vigneron, une vigneronne qu'on essaie de mettre en avant aussi. Voilà, donc on veut assurer que le vin est bon, que le vin est au bon prix, que le vin est produit par vraiment quelqu'un qui a du cœur, qui sait à quoi il contribue. Voilà, on veut que les choses soient très simples.
Quels sont les canaux de distribution ?
On a plusieurs canaux de distribution. On a le web sur oeforgood.com où on peut livrer toute la France assez rapidement. Ensuite, on a pas mal d'épiceries, vrac, bio, zéro déchet. Et c'est ces acteurs-là avec lesquels on va le plus en avant. C'est avec eux avec lesquels on a commencé pour lancer la consigne. Maintenant, on est chez Naturalia, chez Botanique, dans certains biocoop. Voilà, on avance comme ça. Et après, il y a tout le CHR et puis l'événementiel qui se prend un peu une baffe en ce moment. Mais pour nous, c'est un bon canal aussi.
Et la répartition de chiffre d'affaires, c'est cool.
En gros, c'est très, je veux dire, éparpillé. C'est très équilibré entre chaque canal. Ouais. Et l'idée, c'est aussi de ne pas dépendre d'un canal et puis d'avancer avec chacun de nos canaux. Et en particulier avec les canaux avec lesquels on peut construire le plus d'engagement.
Tu nous as parlé là de ton associé qui a plus d'expérience que toi.
Ouais.
C'est quoi son parcours ?
FX, il a fait Polytechnique. Après, il a toujours bossé dans le retournement d'entreprise. Donc, l'idée, c'est qu'il reprenne avec l'aide d'un fonds des entreprises mal en point, que lui, il les remet en place. Et après, il les reconfie à la bonne entité. Et la dernière entreprise qu'il a retournée, c'est un grand domaine viticole dans le Jura. Et au bout de 5 ans, voilà, il a fait sa mission. Il a vendu ce domaine-là. Et donc, il était disponible pour monter un projet qu'il voulait être dans le vin. En fait, en retournant ce domaine-là, il a bien vu qu'il avait des employés qui partaient en combinaison masque à gaz dans les vignes. Il s'est dit, il y a quand même une petite limite à ça, je pense. C'est ça aussi qui a été son appel pour lancer quelque chose avec un peu plus de sens.
Donc, vous vous rencontrez, vous commencez à commercialiser des petits vignerons bio.
Ouais.
Comment est-ce que le métier, votre métier ou votre projet évolue ?
En fait, on était un peu agent, un peu caviste, un peu marketplace, un peu intermédiaire, un peu tout ça. C'est un peu, voilà, ça avançait bien. Et pour autant, on sentait que ce n'était pas encore le truc. Et
Il y a de la concurrence, là.
Ouais, là-dessus, vraiment, il y a de la concurrence. Et puis, on sentait qu'il y avait autre chose qui allait beaucoup plus loin, qui était possible. En fait, on s'est vraiment posé en disant, comment est-ce qu'on peut avoir plus d'impact ? Et c'est vraiment toujours cette question-là qui nous revient et qui nous permet d'avancer. Et on s'est dit, en lançant notre propre marque de vin, on pourra maîtriser beaucoup plus fortement les aspects production, très physiques, où c'est là où, dans la filière vin, il y a vraiment un impact majeur. C'est ça qui nous permettra de lancer la consigne. On avait déjà cette intuition. Et c'est là où vraiment ça vraiment bien marché. Là, on vient de finir l'année avec un x3. Ça avance vraiment bien. On est rentré chez Descomptes, on est rentré chez Club Med, on est rentré en exclusivité pour toute l'Europe chez Le Pain Quotidien. Voilà, on avance chez des beaux partenaires et puis on avance dans nos engagements. Et donc, on a réussi à mettre en place cette boucle vertueuse où on avance dans nos engagements, ça nourrit le marketing, ça nourrit le commerce, toute l'histoire qu'on raconte. Et donc, on a encore plus de matière, encore plus de volume pour générer de nouveaux engagements. Et voilà, et la boucle est bouclée et on avance comme ça et c'est assez gratifiant aussi.
Du coup, c'est quoi ta relation avec les producteurs ? Comment est-ce que ça se passe ? Là, tu m'as ramené, merci beaucoup, un Côte-du-Rhône.
Ouais.
Y a plusieurs vignerons, j'imagine, derrière.
Alors, derrière chaque bouteille, il y a absolument un vigneron ou une vigneronne. On est très transparent sur qui ils sont. Là, je pense que c'est le Côte-du-Rhône.
Alors, attends, ce vin est produit main dans la main avec Emmanuel.
Emmanuel, ok. Et ben, on a...
À Sorgue.
Ouais, en fait, on a deux vignerons derrière le Côte-du-Rhône. On a un Côte-du-Rhône avec Emmanuel, un Côte-du-Rhône avec Denis. On a vraiment une belle relation avec eux parce qu'on a peu de vignerons. Peu de vigneronnes et donc on s'entend vraiment bien avec eux et elles. On va chez eux. Nous, on consacre 1% de notre chiffre d'affaires pour le programme OE pour la biodiversité qui va aider justement nos vignerons à favoriser la biodiversité dans les vignes. Et typiquement, l'an dernier, il y a eu les problèmes de grêle, de gel et tout ça. Et donc, certains de nos vignerons n'avaient plus, en tout cas très peu de volume. Et les peu de volume qu'ils avaient, ils nous les ont confiés. Et nous, on est assez admiratifs du travail des vignerons. Et donc, on veut vraiment être un relais pour eux. En fait, majoritairement, nos vignerons vendent au négoce et donc ils disparaissent complètement à ce moment-là. Et nous, à l'inverse, on essaie vraiment de les mettre en avant, d'aller chez eux, faire des podcasts avec eux, faire des vidéos chez eux, etc. Donc ils sont un peu honorés, si je puis dire, du travail qu'on peut faire avec eux.
Donc c'est un vin de vigneron sous la marque Oé.
Exactement.
Il n'y a jamais de mélange.
Jamais.
Vous avez combien de références?
On a 15 références et 12 vignerons.
15 références et 12 vignerons.
Voilà.
Ok. Sur toute la France?
Pas sur toute la France. Les appellations très classiques, Bordeaux, Côte-du-Rhône, Languedoc. On a un crémant d'Alsace qui est vraiment super. On n'a pas de Bourgogne encore, on n'a pas de Loire. Voilà, en tout cas, pour l'instant, ça nous va bien.
On retrouve à chaque fois les typicités du terroir dans les vins Oé.
Ben ouais, justement, ce qu'on veut, c'est des vins qui sont consensuels, pas des vins de techniciens, pas des vins complexes, on va dire. Mais justement, très simplement, retrouver dans le Côte-du-Rhône Oé, ben, c'est l'appellation Côte-du-Rhône qu'on retrouve. Et c'est très simple. On veut un Bordeaux, on a un Bordeaux. Ça marche.
C'est quoi l'objectif, toi? C'est d'éduquer à un terroir
C'est de répondre aux différentes envies de terroir, si je puis dire, et d'avoir des vins qui reflètent très simplement et très justement leur terroir, produits par des vrais vignerons, produits avec d'une belle manière, produits pour la biodiversité aussi, etc.
Est-ce que Oé, finalement, c'est pas une façon de simplifier la vie, pas un label, mais en tout cas une marque qualité?
Mais exactement. En fait, moi, j'avoue que je suis assez feignant et j'aime pas chercher et j'aime être sûr de ce que j'achète. Et donc, je ne me complique pas la vie. Et donc, c'est exactement ce qu'on veut créer avec Oé, c'est vraiment apporter de la confiance et de la simplicité. On sait qu'en achetant un vin Oé, il sera au bon prix, il est produit par les bonnes personnes, il sert la biodiversité, c'est un vin qui offre un engagement, on sait qu'il sera bon, on sait qu'il fera plaisir.
C'est quoi le prix des bouteilles Oé?
En gros, sur les vins classiques, on est en dessous de 10 euros, c'est entre 8,50 et 10 euros. C'est...
Ok. Quand vous avez démarré, c'était pas votre nom Oé, vous appeliez Pinot Bleu.
Ouais.
Pourquoi vous avez changé?
On sentait pas le nom Pinot Bleu sur le temps, sur le futur et le potentiel qu'on voulait avoir. Et je pense que Oé, le nom Oé a aussi contribué à la bascule qu'on a réalisée, y compris commercialement et dans notre com et tout ça.
Ok, la bascule, donc c'est au moment du changement de nom?
Ouais. On a changé de nom.
La bascule, c'est l'accélération.
Lancé nos vins, on a vraiment accéléré à ce moment-là. On est rentré petit à petit chez les grands. De plus en plus de grands comptes ou des comptes intéressants. On a lancé beaucoup plus d'engagement. On a eu une maîtrise beaucoup plus forte physique, quoi, logistique, physique, production, etc. Et donc, les choix, ils étaient chez nous et pas chez d'autres personnes. Et donc, sur chacun des choix, on a creusé. Par exemple, sur nos vins, il n'y a pas de capsule. Initialement, on avait des capsules partout. La capsule, en fait, c'est... vous savez, cette petite partie en aluminium qui est en haut de la bouteille qu'on enlève avant de l'ouvrir. En fait, ce n'est pas de l'aluminium, c'est du complexe d'aluminium, de la colle, du PVC et de l'alu mélangé. Et ça ne se recycle pas, c'est du pur déchet, quoi. Toutes les bouteilles en ont, c'est plus obligatoire d'avoir la Marianne dessus. Donc la capsule ne sert quelque part plus à rien. Et donc nous, on n'en a plus. Mais ça, on l'a enlevé parce qu'on a creusé et pour savoir concrètement qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. Est-ce que ça se recycle? Comment c'est produit? Où est-ce que c'est produit, etc.
Vous avez déjà fait une ACV du produit Oé, une analyse de cycle de vie produit?
On est en train de lancer ça,
okay,
avec notre bilan carbone là, qu'on vient de commencer. Pour l'instant, on se base sur les travaux de l'ADEME, en particulier sur la consigne et tout s'est bien fait. Après, ce que j'aime beaucoup chez nous, c'est cette démarche d'être tout le temps en mouvement, de mettre toute l'équipe au profit des engagements. Et donc, on s'engage sur toutes les facettes. En fait, on essaie de voir tout ce qu'on a dans les mains et comment est-ce qu'on peut le mettre au profit du bien. Notre baseline, c'est le bien par le bon et on est convaincu qu'on peut mettre ce qu'on a dans les mains au profit du bien.
C'est quoi les 3 ou 4 plus gros impacts d'une bouteille de vin aujourd'hui?
Le plus gros impact, c'est la production de la bouteille en verre. En fait, pour recycler le verre, c'est des fours à 1500 degrés qui chauffent H24. Créer une bouteille, bah, c'est une énergie colossale. C'est là où la consigne, enfin vraiment 80%, je ne pense pas me tromper, mais 80% du carbone dans l'univers du vin, c'est autour de la bouteille, quoi. Et donc la consigne, c'est une réponse absolument nécessaire pour décarboner la filière vin.
Consigne en numéro 1, donc c'est pas le travail dans la vigne, c'est pas les pesticides dans la vigne, c'est pas finalement le bio, c'est pas votre engagement numéro 1.
Alors si on parle de
l'engagement
carbone,
le plus impactant carbone.
Ouais, si on parle de carbone, pour le coup, ce sera plutôt la bouteille. Les pesticides, okay, ça génère pas de carbone en tant que tel, quoi, mais les pesticides, c'est plutôt par rapport à la biodiversité.
Biodiversité, et puis c'est des produits issus de. Enfin,
ouais, la pétrochimie. Ouais, tout à fait. Et donc, s'il faut dire nos 3 plus gros engagements, je dirais la consigne, je dirais évidemment. La biodiversité, le bio, toutes ces questions-là. Et après, je serais tenté de dire c'est pas un engagement en tant que tel, mais vraiment la somme des engagements. Donc c'est la transparence sur les salaires, c'est le handicap, c'est...
On peut peut-être les décortiquer un par un.
Ouais, en fait, je crois vraiment qu'il n'y a qu'une seule crise écologique et sociale. Et donc, quand on répond à l'un, on répond à l'autre. Quand on prend soin des vignerons, on prend soin de la vigne aussi. Et je pense que maintenant, le temps est venu pour les entreprises, non pas de faire le moins mal possible, mais de faire le bien. Et donc, nous, on essaie de voir, on a une logistique, peut-être qu'on peut la mettre au profit de personnes en réinsertion. On a des cartons, peut-être qu'on peut en faire moins ou prendre des forêts FSC, etc.
Du coup, la logistique, là, par exemple, vous travaillez avec...
Là, on vient d'embaucher une première personne avec un handicap, là, il y a un mois. Et là, cette semaine, même, je crois que c'est aujourd'hui, arrive Fabrice, qui est un ancien SDF qui nous rejoint. Ça, c'est des exemples dont on parle peu, parce que sur les aspects sociaux, je n'ai pas envie de les faire pour en parler. Et en même temps, c'est intéressant d'en parler aussi, parce que
c'est possible, ça fait partie
du projet. Donc, dans les engagements, il y a ça, il y a la transparence sur les salaires, il y a le fait qu'on négocie pas les prix avec les vignerons.
Alors attends, on va les prendre un par un. peut-être qu'on peut, se faire toute la bouteille. Donc la bouteille, elle est consignée.
La bouteille est consignée.
Vous avez vendu 400 000 bouteilles l'année dernière. Il y en a combien qui sont revenus?
C'est encore le début. Il y en a peut-être, je dirais même 10 000 qui sont revenus.
Ouais.
Donc c'est vraiment pas tant que ça.
Okay.
En fait, tous nos canaux sont pas... Enfin, toutes les bouteilles sont consignables physiquement, mais toutes ne sont pas consignées parce que tout le monde ne joue pas le jeu. Mais par exemple, là, on travaille avec un acteur, je ne peux pas encore mentionner le nom, mais ça fait un an qu'on est chez eux, on est leur meilleure vente, on passe de 3 à 5 références chez eux. Et ça fait un an qu'on essaie d'évangéliser sur le thème de la consigne, et là, hop, on va lancer un test à Lyon, là, dans les jours qui viennent. Et donc, on aime bien cette logique-là. J'aime bien cette logique, un peu comme un drap qu'on vient tirer vers le haut, et ça vient emmener tous les partenaires avec nous. Et donc, on essaie, au-delà de vendre les vins, de mettre en place la consigne, parce qu'on voit le sens que ça a.
C'est cette bouteille-là que j'ai devant les yeux, de Côte-du-Rhône. C'est une bouteille classique que vous achetez chez Saint-Gobain ou Saverglass.
Oui, exactement. C'est le standard, vraiment, qui a été validé par le réseau consigne comme le standard. Parce que tout l'enjeu de la consigne,
ça peut être multimarque.
C'est de standardiser.
Et ça, est-ce que ça peut être multimarque?
Et ça doit être, à terme, multimarque.
Okay.
Parce que tout l'enjeu, c'est que ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas une bouteille propriétaire d'OE, mais justement une bouteille partagée entre tous pour mutualiser tous les volumes sur la même bouteille et qu'on se la partage les uns les autres.
Et il y a d'autres acteurs que vous sur le marché de la consigne de vin?
Il y a quelques petits vignerons qui commencent à s'y mettre. Certains que nous, on essaie d'aider aussi pour contribuer à la cause. On est les premiers, mais la bascule va venir, quoi.
Donc on a parlé de la capsule, il n'y a plus de capsule.
Il n'y a plus de capsule, il y a
réglé.
Un bouchon qui est en liège naturel, vraiment...
Qui vient d'où le liège?
De forêt européenne au Portugal, quoi. Géré durablement, etc. Il y a une étiquette qui est en 100% issue de déchets recyclés. L'encre est végétale. Tout est produit à Lyon et la colle est hydrosoluble justement pour favoriser, enfin pour que ce soit lavable et donc consignable. Quand on achète la bouteille, on voit pas, mais il y a plein d'emballages secondaires. Donc tous les cartons sont minimisés, produits pareil par un producteur qui est près de Lyon. Tout est bien pensé pour ça. Et là, on commence à livrer des premiers acteurs en casier. Donc plus de carton, plus de scotch, plus de film plastique, plus rien, pur zéro déchet quoi. Il y a que le bouchon qui reste quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on était 10 quand on a lancé la consigne chez OE. On nous a vraiment dit, c'est impossible, tu fais fausse route, ça ne marchera pas, quoi. Je trouve ça plein d'espoir, en fait, qu'un petit acteur comme nous puisse lancer ça et montrer la voie, parce que je me dis, là où partout on dit, ça ne marchera pas, on a un mur en face de nous, en fait, il y a plein de solutions possibles.
Est-ce que c'est à une start-up de faire ça, ou est-ce que c'est à l'État de dire, c'est comme ça que ça doit marcher? Est-ce que vous pouvez être un exemple pour l'État?
C'est une bonne question. Je pense que les start-up, on a cette culture-là de défricher, d'essuyer les plâtres, de prendre sur nous. Maintenant qu'on a montré que c'est possible, évidemment, des plus grands acteurs vont suivre, et tant mieux. Et je pense que, évidemment, l'État peut aussi favoriser ça. De fait, il y a des lois qui passent pour favoriser le réemploi. Ce n'est pas encore actif sur le vin, mais ça va venir.
Tu parlais d'autres engagements que les engagements environnementaux. Transparence des salaires, ça m'intéresse.
Ouais. J'aime bien cette question-là. En fait, dans une entreprise, on voit que, de manière générale, les gens connaissent le salaire de tout le monde, plus ou moins. Il y a toujours Radio Moquette qui est là, il y a toujours des rumeurs, des choses. Et en fait, quand on est transparent sur le salaire, ça met vraiment une grande simplicité là-dedans. Ça remet aussi, la question des talents, la question de la contribution de chacun. Et donc, les choses sont assez simples. Et s'il y a une injustice, en fait, on en parle très simplement. Et ça enlève aussi ce truc de « c'est celui qui gueule le plus fort, qui a le plus gros salaire ». Bizarrement, c'est les mecs. Donc, bizarrement, à terme, c'est que les mecs qui gagnent plus, etc. Enfin, voilà, je trouve que ça simplifie énormément les relations entre tout le monde. Et c'est très simple, quelque part.
Et donc, c'est quoi la différence entre le plus bas et le plus haut salaire? C'est quoi le plus bas salaire et le plus haut salaire?
Le plus bas salaire, ça veut dire qu'on paye légèrement au-dessus du SMIC. Et le plus haut salaire, c'est... Je crois qu'on est égaux, les fondateurs et le plus grand sales, quoi. Ouais, autour de 60K, quelque chose comme ça.
Est-ce que tu as intéressé tes collaborateurs?
Ouais, tout le monde a des parts de la boîte, ouais.
Ok, sous forme de...
BSPCE. Moi, ça me paraît hyper important que chacun dans l'entreprise ait des parts et, au-delà du salaire, participe à l'aventure de manière...
Mais t'es pas obligé de le faire en action, tu peux le faire en participation, intéressement... Est-ce que tu penses que ça parle à tout le monde, les actions ?
Franchement, je pense pas que ça parle à tout le monde. C'est un de nos rôles aussi, à nous, d'éduquer aussi l'équipe pour qu'ils prennent conscience de ce que ça veut dire, quoi. Mais j'aime bien, même s'ils n'ont pas conscience de tout, quand même leur donner cette part-là.
Vous avez réalisé combien de levées de fonds ?
On a fait une première levée de fonds un an et demi après la création de l'entreprise, 500 000 euros.
C'était quand ça ?
En 2017. Que des BA qui connaissaient majoritairement FX. Et la deuxième levée
de fonds... C'est bien d'avoir un associé un peu plus âgé.
Ouais, pour ça, oui. Et la deuxième levée de fonds, c'est plus moi qui l'ai portée. Et là, on est plutôt allé chercher des business angels plutôt à impact. Voilà, et là, on a levé 2,5 millions. C'était il y a un an et demi maintenant. Et
du coup, la table de capitalisation, il y a... on en a parlé un
elle
petit peu.
Elle est large, mais je sais que c'est...
Tu as combien de lignes ?
On a 50 actionnaires à peu près.
Ok, donc c'est comme une boîte du CAC 40 presque.
Ouais, voilà. Après, bah, ça s'est fait comme ça. C'est notre histoire qui est comme ça. Et...
J'étais DAF de Alter Echo. et c'est pas facile quand t'es DAF et que tu gères 50 lignes.
Oui, c'est vrai.
C'est quoi vos projets là, sur les trois prochaines années ?
On a beaucoup de projets. L'équipe dit toujours que j'ai trop d'idées. Il faut vraiment qu'on se déploie, vraiment. On sent qu'on a un vrai rôle à jouer dans l'univers du vin, au moins en France. On ne fait pas encore de démarchage de ce côté-là ou d'action commerciale, mais pour autant, on a des demandes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avancer de ce côté-là tout en respectant nos engagements, en livrant la voile. Et ensuite, on voit que ce qu'on a commencé à mettre en place avec le programme OE pour la biodiversité, avec nos vignerons, eh bien, ça peut vraiment porter encore plus de fruits. Très concrètement, l'an dernier, on a fait... on s'est associé avec EcoFarms, une start-up parisienne, pour analyser les domaines de chacun de nos vignerons et avoir un plan d'action avec eux sur la biodiversité, mais pas que. Et donc l'idée, c'est de continuer à avancer ça et puis avoir ce plan d'action pour chacun des vignerons. Et maintenant, nous, ce qu'on essaie, c'est continuer à animer nos vignerons pour qu'eux puissent progresser aussi et être dans cette même logique, un peu comme nous chez OE, de progrès continu tous les trimestres. Et après, sur la consigne, on essuie encore tous les plâtres. Évidemment, on avance avec les acteurs les plus engagés, mais toute l'idée, c'est d'avancer avec les acteurs chez qui c'est
avec les gros.
Encore compliqué, quoi, très concrètement avec les gros. Là, le pain quotidien en France, toutes les bouteilles en France, enfin françaises, sont dans une logique de consigne, quoi. Et c'est le premier grand acteur avec lequel on travaille qui est en mode consigne. Et on discute avec vraiment des grands acteurs pour le mettre en place. Donc, ça a tellement de sens écologique qu'il faut qu'on arrive à percer et à faire basculer les gros chez qui... ils perçoivent encore beaucoup de contraintes, quoi. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça.
Pourquoi c'est pas si compliqué que ça ?
En fait, c'est complexe, mais pas compliqué. J'ai l'impression que la barrière est plus mentale que physique. Une fois qu'on a mis en place les leviers pour que la consigne se fasse, en fait, ça marche, quoi. Et ça a vraiment du sens. Et on voit qu'en plus, sur toute la chaîne, tout le monde est ravi d'y contribuer, y compris les gens, si on parle d'un restaurant qui servent les vins, ils voient que derrière, ça a du sens. Donc, ça redonne aussi du sens même au métier des gens, etc. Donc, c'est très concret, très, très tactile, quoi, si je puis dire.
Si on prend l'exemple d'un restaurant, d'ailleurs c'est la même chose chez un particulier, une fois qu'elle est utilisée, où est-ce qu'on la ramène ? Dans son magasin ou elle est reprise dans le restaurant ?
Pour les particuliers, dans son épicerie, dans son magasin, qui joue le jeu de la consigne, tout le monde ne le fait pas encore. Et pour les restaurants, bah, c'est beaucoup plus facile parce que les restaurants, c'est vraiment sur place, quoi. Donc là, nous, on vient livrer et ramasser. Les casiers, quoi.
Et ensuite, comment ça se passe ? Il y a des centres en région, enfin il y en a sur toutes les régions. Combien de centres il y a besoin en France pour avoir quelque chose de massif ?
Ouais, ensuite on vient mutualiser tous les volumes dans un lieu précis, et ensuite on va envoyer les palettes de bouteilles vides ou sales à laver. Pour l'instant en France, il y a trois centres de lavage, mais il y en a beaucoup qui sont en train de naître ou de fleurir un peu partout en France. Et franchement, il y a plein de projets. Parfois associatif, parfois beaucoup plus costaud, de laveuse, nouvelle laveuse. Et pour l'instant, nous, on s'engage à reprendre toutes les bouteilles parce qu'on est les seuls sur la consigne. Mais demain, l'idée, c'est que les bouteilles soient réemployées au plus près du lieu de lavage et donc du lieu de consommation aussi, quoi.
Vous pourriez finalement devenir, en parallèle de OE, devenir un acteur de la réutilisation de bouteilles ?
Ce n'est pas notre mission parce qu'il y a quand même un enjeu de volume. En fait, tout l'enjeu de la consigne, c'est les volumes. Mutualiser les volumes, optimiser les lavages et tout ça, optimiser les coûts. Et donc, bah, on préfère miser sur des acteurs qui sont vraiment dédiés à ça, qui vont eux mutualiser les coûts et mutualiser les volumes.
Si vous êtes le seul acteur, qu'est-ce qu'il lave comme bouteille aujourd'hui ?
Il lave plein de contenants différents, des contenants de salade par exemple, et l'État pousse pour que tous ces petits contenants-là basculent sur le réemploi. Et il lave aussi des bouteilles, mais c'est encore mineur sur les bouteilles, quoi.
Est-ce qu'il y a des synergies avec les bouteilles en verre, des bouteilles d'eau minérale?
Bah forcément, parce que les laveurs de bouteilles de vin savent aussi laver des bouteilles d'eau minérale. Donc,
Est-ce que c'est les mêmes centres aujourd'hui?
aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes centres parce que pour le coup, bah, typiquement Coca-Cola, Evian, etc., ils lavent eux-mêmes parce que c'est tellement grand que eux, ils savent laver en interne, quoi. Mais demain, ça peut complètement être optimisé, quoi.
C'est qui vos les ennemis du projet de la consigne? Est-ce que quand on met dans sa poubelle en verre, je sais pas quel est le taux de collecte, mais j'imagine qu'il est assez, enfin, je sais qu'il est assez élevé. Qu'est-ce qu'ils en font de ce verre? Ça devient une matière première finalement. Ça, c'est des gens qui vont voir leur business disparaître si eau est partout. Ou si la consigne, en tout cas, avec
Ouais.
eau et d'autres, est partout.
Bon, de fait, on aura toujours besoin de bouteilles neuves parce qu'une bouteille se casse, une bouteille part ici ou là. Oui, leur business va disparaître. Ou en tout cas, il va vraiment être bousculé dans les années qui viennent. Ça, c'est sûr et certain. Recycler sur le principe, c'est bon, mais il y a mieux le réemploi. La bouteille, elle part pour le recyclage dans des. Enfin, elle est fondue dans des fours à 1500 degrés qui chauffent H24, qui demandent une énergie colossale, qui sont refroidis avec plus d'eau que l'eau nécessaire pour laver une bouteille. Et ensuite, cette masse de verre fondu est utilisée pour refondre des bouteilles neuves. Sauf que pour une bouteille neuve, on a toujours besoin de matière neuve, de silice neuf, sinon la bouteille, entre guillemets, ne se tient pas. Et donc, la silice, c'est une matière qui est non renouvelable, où il y a déjà une tension sur cette matière-là. Dans une bouteille sombre, qu'on appelle chêne, il y a 80% maximum de verre recyclé, donc 20% de matière neuve. Et dans une bouteille transparente, blanche, c'est maximum 20% de verre recyclé. Donc 80% de matière neuve, donc de silice neuve. Et donc, il y a un moment, ça ne marchera plus, quoi. Et donc, le réemploi, c'est une solution, c'est nécessaire, c'est vraiment le futur, quoi.
Combien il y a de bouteilles de vin en France qui sont consommées ou produites chaque année?
C'est des milliards. Enfin, le marché du vin, c'est 8 milliards d'euros en France. Donc, ouais, c'est vraiment des milliards tous les ans, quoi.
Est-ce que tu peux nous décrire les impacts de la consigne par rapport à une bouteille de vin qui va être recyclée?
Les bénéfices d'un ADEME, c'est 79% de gaz à effet de serre en moins, 76% d'énergie en moins et 33% d'eau en moins. Il y a d'autres bénéfices aussi qui sont plus sociaux. Par exemple, dans la métropole de Lyon, quand on met une bouteille à recycler, ça coûte 5 centimes à la métropole. Et donc, c'est donc 5 centimes pour ramasser le verre, le transporter, etc. Et donc, c'est autant d'argent qu'on pourrait affecter à d'autres choses, quoi.
Mais ça a un coût, les 5 centimes du recyclage, tu vas les retrouver aussi sur la consigne, non?
Bah, aujourd'hui, la bouteille consignée coûte plus cher parce qu'il y a très peu de volume. Mais quand on voit l'énergie demandée pour fondre le verre, quand on voit la hausse, c'est bien le sujet du moment, des coûts de l'énergie, vraiment les deux courbes entre bouteilles consignées et bouteilles recyclées, si je puis dire, vraiment vont se croiser là dans les années qui viennent, mois qui viennent même.
Donc finalement, des gens qui pourraient freiner, c'est aussi, alors peut-être pas aujourd'hui, mais c'est les géants du verre.
Les géants du verre, et peut-être aussi la filière vin qui peut voir aussi sur la mutualisation des volumes et du format de bouteille une perte de créativité. Typiquement, tout le marché des rosés qui est animé d'une belle manière avec des bouteilles un peu inhabituelles, un peu spéciales. Et donc ces bouteilles-là sont propriétaires et donc ne peuvent pas rentrer dans une logique de consigne.
Comment on les fait rentrer dans le...
Bah, je pense que 100% des volumes ne doivent pas absolument rentrer dans une logique de consigne, mais c'est toujours les 80-20. Les 80% des volumes sont sur des bouteilles très classiques, donc celles-là doivent passer en consigne pour commencer, puis après, pour la suite, on verra.
Donc là, tu nous as parlé des projets, mais si on parle de volume, donc 400 000 bouteilles l'année dernière, 800 000 cette année, c'est quoi les ambitions
Bah, on
à
sent
5
qu'on
ans de...
peut, on sent que vraiment, on répond à un besoin de nos clients, de raconter quelque chose de très précis, de regagner en engagement, d'avoir des vins qui reflètent les engagements qu'ont nos partenaires. Et de plus en plus de partenaires veulent ou doivent tendre vers une logique d'engagement de manière générale. Donc on répond vraiment à ce besoin-là. Et donc on sent que les multiples qu'on fait d'année en année, on pourra les tenir par la suite, quoi.
Aujourd'hui, l'équipe, c'est combien de collaborateurs?
On est une petite vingtaine chez Away. Majoritairement au commerce, un peu à la com. Et puis comme on gère nous-mêmes les opérations, on a des préparateurs de commandes, une logistique, etc.
Vous êtes labellisé B Corp.
Oui.
Pourquoi ce label?
On est certifié B Corp depuis 4 ans. On a été recertifié avec 15 points de plus 3 ans après. On aime
Peut-être
bien
tu
chez.
peux expliquer
Ouais.
le système des notations?
En fait, aux USA, une SAS classique, c'est une C Corp, Capital Corporation. Et donc, B Corp, c'est Benefit Corporation, donc une boîte qui a pour mission non pas de faire du capital, mais de faire le bien. L'idée, c'est de mettre son business au profit du bien commun. L'idée, c'est de rentrer dans une communauté d'entreprises en mouvement, dans leurs engagements. Et donc, il y a un système de points avec un grand questionnaire auquel il faut répondre, autour de 200 questions, très précises, à la fois sur l'écologie, à la fois sur les aspects sociaux. Par exemple, ils posent la question, quel pourcentage de vos fournisseurs sont détenus par des femmes ? Et nous, dans le monde du vin, c'est très masculin, on ne s'est jamais posé la question, et ça vient un peu nous éveiller sur certaines choses.
Le questionnaire, il est disponible en ligne, tout le monde peut le faire.
Tout le monde peut le faire. Très financièrement parlant, il y a juste le fait de devenir Bicorp qui est payant, quoi. Mais tout le monde peut le faire et c'est hyper intéressant de se confronter à ces questions-là. Typiquement, il y a 3 ans, ils nous posaient la question dans quelle banque est-ce qu'on est, sachant qu'il y a beaucoup d'enjeux sociaux et environnementaux sur les banques. Et c'est ça qui nous a un peu éveillé à changer de banque. Et donc là, il y a moins d'un an, on est passé à la Nef.
Qu'on connaît bien.
Voilà.
Piloter sa boîte, ça demande beaucoup d'investissement. Comment tu fais pour faire le... T'as 3 enfants, bientôt 4. Comment est-ce qu'on fait la balance vie perso, vie pro ?
C'est toujours une bonne question. Un des secrets que je vois de plus en plus, c'est rendre les équipes autonomes. Et donc, je pense qu'on a réussi à mettre chez Away un bon cadre pour ça. On bosse avec des objectifs trimestriels, avec les bons outils aussi. On a des points réguliers, des one-one toutes les semaines, etc. Et donc, l'autonomie de l'équipe, moi, me permet aussi de me faire le pas de côté, prendre du recul aussi, et être plus présent à ma famille aussi, mais c'est toujours un vrai défi.
Ce serait quoi tes conseils si tu as quelqu'un, un entrepreneur qui vient te voir et qui te dit « je veux monter ma boîte ».
Suivre ses intuitions. Moi, dans les plus grandes erreurs que j'ai pu faire, c'était d'écouter des personnes en qui j'avais une grande confiance, ce qui est plutôt cool de faire confiance, ça vraiment. Mais pour autant, par moments, j'ai écouté des gens sans écouter mes intuitions ou en ayant l'intuition que je fais l'erreur. Quoi.
Ça m'est arrivé quelques fois aussi.
Ouais, c'est pénible.
C'est un bon conseil, ça. On n'est plus en janvier, on est début février, mais c'est quoi tes bonnes résolutions 2022 ?
Franchement, mon unique résolution, c'est de prendre soin de ma famille. Ça paraît très terre à terre, mais c'est vraiment un défi pour moi d'être présent aux choses. Quand je lis une histoire à mes filles, d'être présent à cette histoire, présent à mes filles. J'avoue, j'ai toujours 1000 idées en tête, 1000 sujets, 1000 défis, 1000 doutes. C'est pas facile à tenir, j'avoue, mais c'est ma résolution.
Eh ben merci Thomas, c'était un bon échange, passionnant.
Merci Thibaut.
Je pense que vous êtes une boîte qui peut faire basculer le sujet de la consigne dans le vin. Je ne l'avais pas imaginé. Alors, la consigne, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup chez Castalli, puisque alors, elles ne sont pas consignées nos bouteilles, elles restent chez les clients. Mais une consigne à l'échelle d'un pays sur des milliards de bouteilles, je pense que là, vous avez un challenge et une montagne à gravir exceptionnelle. Merci pour la bouteille.
Avec plaisir.
Et puis, longue vie à Oé et à très vite.
Merci beaucoup.
Salut. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.